Chapitre 3e, dans l'orage. Quand ils furent entrés dans le jardin de la villa, Martin Numa demanda à Prosper : « Vous avez bien fermé la porte de nos hôtes ?»«
Oui, patron.
Ils ne s'aviseront pas de l'ouvrir. » »«
Bon, attendons. »
Au bout d'un assez long moment, les deux hommes reparurent. Il ne dit rien à celui qui avait fait le guet. Puis, ils se dirigèrent vers le compère qui gardait les bicyclettes. Celui qui faisait le guet alors ferma la porte de la grille. Il se dirigea vers la porte du garage et la cogna, y frappa quelques coups. Le chien de nos amis se mit à aboyer. Alors l'homme s'éloigna et rejoignit ses camarades.
« Tout ceci s'est très bien fait, » dit Martin Numa.
Ils se sont rendus compte du bruit qu'ils pouvaient faire sans donner l'éveil au chien qui est un peu vieux et qui n'a pas l'habitude d'être dérangé la nuit dans son sommeil. Martin Numa regarda les quatre hommes s'éloigner, remonter à bicyclette et filer.
« Hop !» fit-il. « Hop, debout, à notre tour !»
Nous nous tirâmes promptement de nos sacs de caoutchouc. En une seconde, nos pèlerines roulées disparaissaient dans les sacs dont Prosper se chargeait. Martin Numa me dit « Nous allons varier les plaisirs de cette nuit radieuse.
Varions.
Après l'immobilité, nous allons nous donner du mouvement.
Parfait.
Nous étions à terre. Nous allons dévorer l'espace. » Et étendant la main, Martin Numa nous dit «
Courville, prenez celle-ci, c'est la vôtre. »
Il me montra une bicyclette qu'à deux pas de là masquait une petite meule d'herbe coupée. Lui en tenait deux par le guidon. En courant, Prosper alla jeter par-dessus la grille de la villa les trois sacs dans le jardin. Puis il prit la bécane que lui tendait son chef. Et nous voilà, tous trois, roulant dans la nuit délicieuse sur une route douce comme une piste de course vers Fontainebleau. Martin Numa allait seul devant à 50 mètres. Prosper me dit de rester avec lui en arrière, de suivre à son allure. Nous pouvions, tout en roulant, parler à voix basse. « Est-ce qu'ils sont entrés dans la maison ?» demandai-je à mon compagnon.
« Je ne pense pas. Ils n'auront pas eu le temps. »
D'ailleurs, comme me l'a dit le chef, c'eût été commettre une grosse faute que de tenter une effraction quand rien ne la favorisait. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas ? Ils ont reconnu la maison, étudié les portes, bien vu comment ils devront s'y prendre lorsque le moment leur semblera convenable. En somme, aujourd'hui, ils ont fait une répétition. Voilà tout. Nous continuions de rouler, activant un peu l'allure. Tout à coup, nous aperçûmes les quatre cyclistes rouler en avant, deux par deux, assez rapidement. Martin Numa leva la main. Prosper comprit le signal.
« Doucement, » me dit-il. « Allons plus doucement. »
Il fallait seulement ne pas perdre de vue Martin Numa. Lui se chargeait de ne pas laisser échapper les quatre cyclistes que nous suivions. Mais la prudence, comme il était facile de le comprendre, nous commandait de ne pas nous laisser apercevoir en groupe par ceux après qui nous courions. C'eût été trop aisément leur donner vent de notre poursuite. En pareille circonstance, mieux que moi, Prosper savait ce qu'il convenait de faire. Je n'avais qu'à me laisser conduire par lui. La promenade était au demeurant des plus agréables. Rouler sur cette belle route, sans fatigue, sans chaleur, tout en assistant au lever du jour, dans le fond, ça devenait un vrai régal. Nous suivions un petit chemin qui entre dans Fontainebleau, formant une sorte de raccourci de la grande route et évitant une montée assez forte. Les premières maisons de la coquette ville dormaient encore, quand nous passâmes sous leurs croisées fermées, que doraient déjà les rayons roses du jour timide, pointant à peine. Nous ne perdions pas de vue Martin Numa. Tout à coup, il fit un geste du bras gauche, comme précédemment.
« Bon, » fit Prosper, « ça va. »
Et il me dit « Continuons à pédaler. »
« Dépassons-le comme si nous ne le connaissions pas. »
Martin Numa s'arrêta quelques 30 mètres plus loin. Il sauta de sa machine. Nous le dépassâmes sans paraître nous occuper de lui. Prosper m'entraîna. Il me fit parcourir la rue dans laquelle nous étions engagés, puis, obliquer à gauche, prendre d'autres rues, contourner des maisons, des jardins de villa, et revenir à peu près à la hauteur où s'était arrêté son chef. Pendant ce temps, Martin Numa, ayant appuyé sa machine contre le mur d'une maison, pompait consciencieusement, gonflait un pneu à qui un accident semblait être arrivé. Sur le trottoir d'en face, devant la porte d'une villa d'aspect confortable, trois machines se trouvaient posées, tenues par le guidon appuyé le long du mur. C'étaient les vélos de trois des gens que nous suivions. Le quatrième avait été rentré par son cavalier. Les quatre bicyclistes étaient donc dans la villa. Martin Numa acheva de gonfler son pneu défaillant. Il prit sa machine par le guidon et paisiblement, il traversa la chaussée, monta sur le trottoir voisin, passa devant les trois bicyclettes laissées dans la rue. Rapidement, il posa sa main droite sur la roue arrière de l'une des bicyclettes et s'éloigna sans hâte. À peu de distance, il remonta sur son vélo et reprit sa course, mais il s'arrêta peu après. De nouveau sauta à bas de son vélo, manifestant de l'impatience, de la colère, pestant contre un satané pneu qui se dégonflait encore. Il se remit en mesure de réparer ce nouvel accident. Chercher une fuite de pneus, c'est assez long. Accroupi sur le trottoir, mais la tête tournée vers la villa devant la porte de laquelle se trouvaient les trois bicyclettes, Martha Numa semblait très pris par la réparation de son pneu. Elle lui demanda un temps assez long. Tout à coup, de la villa qu'il ne quittait toutefois pas des yeux, trois hommes sortirent. Ils enfourchèrent leur machine et ils se mirent en chemin. Ils voyageaient sur le même front sans rien dire à petite allure. Par bonheur, ils venaient dans le sens de Martha Numa. À ce moment, sans doute, la réparation du pneu était terminée, car Martha Numa se leva. Mais avec cet homme, il faut s'attendre à toutes sortes de miracles. Martha Numa s'était tout à l'heure accroupi avec sa figure habituelle, fine, rasée, au menton énergique, aux yeux clairs et perçants. Voici qu'il se relevait le visage orné d'une barbe roussâtre. Les bicyclistes passèrent devant lui, le regardèrent, et poursuivirent leur route sans manifester le moindre étonnement. Sans doute, à cette heure, les cyclistes ne sont pas en foule dans les rues, mais il n'est pas rare, pas anormal d'en rencontrer. Martha Numa put donc se remettre en selle quelques instants après le passage des trois bicyclistes et, à bonne distance, recommencer à les suivre. Les trois hommes roulaient sans hâte, sans précipitation, en braves gens que rien ne presse. Ils entrèrent dans le centre de la ville et, arrivés près de la mairie, ils se séparèrent. Martha Numa, sans doute, s'attendait à cela. Il n'en fut pas surpris. Il laissa deux des bicyclistes s'en aller de leur côté et, obstinément, à distance suffisante pour ne pas donner l'éveil, il suivit le troisième. Or, ce troisième montait la bicyclette dont Martha Numa, au passage, avait touché rapidement la roue arrière. Ce bicycliste remonta vers les casernes. Martha Numa le suivait toujours, le laissant s'engager dans les petites rues, sachant très bien où le rejoindre, le retrouver. D'ailleurs, il suivait la trace avec une telle prudence que le surveillé ne pouvait se douter de la poursuite. Et ce que Martha Numa attendait se produisit. Le cycliste s'arrêta tout à coup, sauta à bas de sa machine. Derrière, en coin de rue, Martha Numa lui aussi, presque en même temps, s'arrêta et se tint caché. Le cycliste mit à faire ce que tout à l'heure, si consciencieusement, Martha Numa accomplit. Seulement, le vélo du roi des détectives n'avait absolument rien, tandis que celui de cet homme roulait sur un bandage misérablement dégonflé et plat. Dans sa barbe rousse, Martha Numa se mit à rire. Était-ce le fait de se rire? Mais cette barbe rousse disparut soudain pour être remplacée par une barbiche grisonnante. Un lorgnon, et ce touriste ressemblait maintenant à quelque employé d'administration militaire comme il s'en trouve en grand nombre à Fontainebleau. Puis, l'employé d'administration militaire remonta sur son vélo et s'élança dans la direction du cycliste malheureux. Arrivé près de lui, il s'arrêta. « Hé, là » fit-il. « Qu'est-ce qu'il y a ? Crevé ? Un clou ? Je ne sais pas, » répondit l'autre, sans même regarder son interlocuteur. « Je cherche. Attendez, je vais vous aider. À deux, on voit mieux. » Martha Numa descendit de vélo et s'approcha. Il aida le cycliste malheureux à chercher la cause de l'accident. Naturellement, au bout de quelques instants de recherche, on la trouva. « Une épingle !» s'écrièrent-ils en même temps. « Une simple épingle !» Simple épingle sans doute, mais épingle pliée d'une façon particulière. La pointe engagée dans le bandage ne pouvait s'en échapper et à chaque tour de roue rentrait un peu plus jusqu'au moment où elle devait atteindre la chambre à air et commettre des dégâts. « Maintenant qu'on en connaît la cause, » fit alors Martha Numa, « le mal peut se réparer facilement. »« Oui, c'est facile, quoique un peu long. » Martha Numa offrit ses services, mais le cycliste, ayant dans la sacoche son nécessaire à réparation, le remercia. Martha Numa se retira donc, disant qu'il se rendait au bureau. Les deux hommes se serrèrent la main, se souhaitant mutuellement bonne promenade. Peu après, Martha Numa passait devant Prosper et moi, nous faisait signe, et nous nous élancions derrière lui, mais à grande distance, sans avoir l'air de le suivre sur le chemin parcouru tout à l'heure en sens inverse, et nous rentrions à la villa. Comme nous y pénétrions, nous entendîmes un bruit caractéristique de porte qu'on bouscule, de serrure qu'on cherche vainement à ouvrir.
Martha Numa et Prosper se mirent à rire. Puis le roi des détectives s'approcha de cette serrure rebelle, et avec un petit instrument à lui, il l'ouvrit tout facilement. Notre hôte parut, encore tout rouge des efforts qu'il avait faits en vain pour ouvrir la porte.
« Heureusement que vous êtes là !» s'écria-t-il, tendant la main à son ami. « Sans vous, nous étions forcés d'enfoncer la porte pour sortir.
Qu'est-ce qu'elle a donc eu, cette serrure? Quelle fantaisie !» Notre hôte chercha en vain ce qui retenait sa serrure. C'était Martha Numa qui l'avait condamné.
« Vous comprenez, mon cher Courville, me dit-il quelques instants après, que j'ai dû mettre nos amis sous clé pendant cette nuit. De vous, j'étais sûr.
Vous seriez assassiné comme il me plaisait. Mais il pouvait se faire que les assassins, en se trompant de chambre, allassent tuer, pour de bon, nos amis, ou bien il pouvait également arriver que nos ennemis ayant fait du bruit, nos hôtes les entendissent. Alors, accourant voir ce qui se passait, ils seraient fatalement tombés sous leur coup.
Pendant 2 jours, le temps demeura superbe.
« Pas pour ce soir, me dit Martha Numa, chaque fois.
Il vous accorde du temps, mon cher Courville. »
Enfin, un matin, comme je dormais encore, Martha Numa pénétra dans ma chambre.
« Du courage, me dit-il, comme on dit aux condamnés à mort au moment de l'exécution. Votre pauvre Engrais est rejeté. C'est ce soir que probablement ça va se passer.
Il pleut et le vent va se lever.
« Bien, répondis-je, je suis prêt. Je serai brave en face de la mort. »
Ce n'était pas pour rien, au demeurant, que Martha Numa s'était amusé à prêter son aide au bicycliste malheureux. Quand il s'était approché des vélos rangés devant la porte, il avait piqué l'épingle dans le bandage de l'un d'eux. C'est ce vélo qu'il suivit ensuite, laissant les deux autres aller où bon leur semblait, et se doutant que prudemment ils iraient au hasard, sans but précis, pour le cas où on les suivrait, dépistés facilement. Tout en aidant le bicycliste à réparer le dommage par lui causé, Martha Numa cherchait à voir le visage de l'homme, et sans que celui-ci s'en aperçût, il prenait l'empreinte de la plaque d'identité du vélo, qui portait gravé un nom, une adresse. Sur une feuille de parchemin garnie de cire à modeler, il avait pris l'empreinte, et maintenant le plâtre coulé dans cette empreinte lui donnait un nom et une adresse de Paris. Martha Numa les fit vérifier par Philippe. Ce nom et cette adresse étaient de pure fantaisie. Il s'y attendait d'ailleurs.
« Oui ?» nous dit-il, « oui, ces gaillards-là sont de bons adversaires. C'est un plaisir que de les combattre. »
Pendant ces 2 jours, nous vîmes rôder autour de la villa, soit des pêcheurs, soit des touristes, avec des appareils de photographie, soit des cyclistes.
« Bon, bon, » faisait Martha Numa, entre 2 bouffées de cigarette, « venez, mes bons amis, venez regarder la maison, venez vous assurer que nous sommes toujours là. »
Mais pendant les 2 nuits de beau temps, voulant se reposer et ne pas laisser naître chez les bandits la tentation du coup à faire, il garda allumée dans sa chambre une lampe jusqu'au jour pour faire croire qu'il veillait. Pendant la journée, la pluie tomba. Vers le soir, comme il arrive assez souvent, pour ne pas dire régulièrement, le vent s'éleva, puis alla en augmentant. Dans la nuit, le temps était très gros, le vent soufflait avec rage, et la forêt faisait entendre sa forte voix.
« Belle nuit, messieurs, » nous dit Martha Numa. « Belle nuit pour les crimes !»
Ce soir-là, les mannequins furent mis à notre place dans nos lits. Ce soir-là, Martha Numa me fit coucher dans un petit cabinet sur le même étage.
« Dormez, » me dit-il, « nous vous réveillerons quand il sera temps d'être assassiné. »
Je ne dormis guère. On a beau se dire qu'on a dans son lit un mannequin à la place de soi-même, quand on sait que les assassins rôdent dans les environs, pénètrent dans la maison. Cela produit un effet qui doit, même chez de plus endurcis que moi, chasser toute idée de sommeil. Aussi, quand Prosper gratta à ma porte, je ne dormais pas le moins du monde. Mon rôle était à présent de ne pas bouger, de regarder par la porte entrouverte de mon cabinet et d'attendre. Prosper et Martha Numa m'avaient laissé seul.
« Ça y est, » m'avait dit Martha Numa, « ils viennent d'ouvrir la porte de fer. Ils passent dans le jardin. Les voilà qui ouvrent la porte de la maison.
Bon courage, à tout à l'heure. »
Martha Numa m'abandonna.